On reçoit donc le groupe, enfin je sais pas si on dit ça comme ça, ou le parti de lutte ouvrière.
Hein? Oui, bonjour.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Qui a en deux mots un parti trotskiste, non? Oui.
Bah oui, on est trotskiste, on se revendique des idées communistes, voilà. De la révolution, de renverser le capitalisme. Et notre porte-parole et notre candidate à l'élection présidentielle, c'était Nathalie Arthaud. Voilà, l'année
alors,
dernière.
Trotsky qui a eu une fin malheureuse puisqu'il avait été assassiné, dans quel pays que c'était?
Au Mexique.
Au Mexique, voilà.
Par les sbires envoyés par Staline, oui.
Par Staline, on a lu, relu ça, on l'a pas lu tout de suite, hein, en France. Je me souviens, il a fallu avoir un certain temps que mon père en parlait comme ça, puis après, ça, la vérité, c'est dite. Alors, on vous reçoit parce que chaque année, vous faites la fête de lutte ouvrière. Alors, les autres années, je sais que ça se passait à Saint-Fond. Ah oui. Hein.
Ça s'est passé à Saint-Fond il y a
pendant
un
des années.
Temps.
Hein. Et c'est la première fois que vous allez à Saint-Priest, non?
Non, moi je l'ai toujours connu à Saint-Priest, en fait, depuis que je suis dans la région. Donc,
je dirais que ça fait bien une dizaine d'années qu'on fait à l'espace mosaïque à Saint-Priest.
Ah, ouais. On l'a fait à Saint-Fond.
Mais avant, c'était à Saint-Fond,
avant,
bien sûr.
Avant.
Mais en quelle année?
Avant.
Et
oui,
2001.
Mais les choses changent.
Hein?
Avant 2001. Oui, en 2001, lorsque Yves Mongenod a perdu la mairie, la fête s'est déplacée à Saint-Priest.
Ah bon, je crois que c'était
donc,
plus...
C'est l'occasion de venir découvrir, si ce n'est déjà fait.
Voilà.
Je rappelle, nous sommes le mercredi, donc 20 septembre 2017.
Et alors, votre fête a lieu samedi et dimanche.
Samedi
c'est bien
23.
Remarqué que je n'ai pas dit week-end, j'ai bien dit samedi et dimanche.
Samedi 23 et dimanche 24, donc la fête de lutte ouvrière.
Alors, ben, on va commencer par les spectacles, hein, parce que c'est des choses qu'après on oublie un petit peu parce qu'on dit c'est politique. Enfin, je pense quand même les gens qui viennent ici, je veux pas dire que ce soit absolument des adhérents, ben, ils disent pas non, quoi. Hein. Bon, à part Ferrat, bon, on savait qu'il allait dans les fêtes du parti, bon, on sait. Mais il y en a d'autres qui allaient dans les fêtes du Parti communiste ou d'autres, hein, du Parti socialiste. Ils avaient un petit côté sympathique pour les gens qui organisaient. Alors, allons-y, nous énumérer vos spectacles.
Hein. Alors, samedi soir, on aura l'occasion d'accueillir le théâtre du Grabuge, hein, qui avec son spectacle Léo Parfait Nounou, hein, qui est un spectacle drôle, féministe, social, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un ancien camionneur qui se reconvertit en assistant maternel, voilà.
Et je crois qu'ils sont, je sais pas s'ils sont pas domiciliés dans l'arrondissement là.
En tout cas, ils sont lyonnais, mais vers Mermoz, oui.
Ah, ils sont à Mermoz.
Oui, je crois.
Ah bon, c'est juste qu'ils sont à Mermoz.
Alors, après, il y aura un petit spectacle musical, Les Bonnets, un groupe local, surtout de disco, de reprise des années 80, pour lancer un petit peu la soirée et le bal du samedi soir. Donc ça, c'est les spectacles de samedi soir.
Mmh.
Voilà. Voilà, et puis le dimanche, on accueillera Hazard, qui est de la musique kabyle, et puis un des groupes de Philippe Bruno, hein, qui était un candidat sur Villeurbanne, avec Chris Feeling, hein, qui est plutôt du blues, voilà, qui animeront les allées dimanche.
Là, ça sera une petite formation musicale.
Voilà.
Et puis sinon, il y a plein d'animations en permanence dans la fête. Il y aura d'autres animations de chansons, un pianiste de jazz. Il y aura aussi un magicien qui viendra animer un petit peu les allées de la fête.
Très bien.
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, parce que c'est quand même sympa.
Alors, on continue la programmation en dessous de la feuille, sur la feuille.
Alors, on va laisser une grande place cette année dans notre fête. C'est les 100 ans de la Révolution russe, hein, 1917-2017. Et nous, on a envie de discuter de l'actualité de cette révolution. Parce que on fait que nous expliquer que les idées communistes, c'est du passé, que finalement, le capitalisme, c'est le meilleur des mondes possibles et compagnie. Ben, nous, on n'est pas d'accord. Et nous, on trouve que cette révolution que les ouvriers, les paysans, les soldats russes, ils ont fait en 1917, ben, on a plein de choses à en apprendre. Notamment par le fait que ils ont lancé cette révolution, c'était la pleine guerre mondiale, c'était la boucherie, c'était vraiment là où le capitalisme montrait vraiment toute sa barbarie en plein cœur de l'Europe. Et finalement, les travailleurs russes, ben, ils sont rentrés en lutte pour faire arrêter cette guerre, pour faire arrêter cette boucherie. Et ils ont commencé par faire confiance à des gouvernements Voilà, pensant que certains gouvernements... Donc, ils ont renversé le tsar hein, en février 17. Et ils ont commencé par faire confiance à différents gouvernements qui leur promettaient « Oui, oui, on va s'occuper de la guerre. Oui, oui, on va donner la terre aux paysans. Oui, oui, mais plus tard, mais plus tard, mais plus tard. » Et puis, finalement, les travailleurs qui s'étaient organisés hein, dans des conseils ouvriers, les soviets, ils ont compris que s'ils voulaient vraiment que les choses changent, c'est-à-dire mettre fin à cette boucherie de la guerre mondiale, mettre fin à l'exploitation, mettre fin à la violence de la police, de l'armée, ben, il fallait qu'ils prennent le pouvoir eux-mêmes. Et ça aboutit à la révolution d'octobre où c'est vraiment les travailleurs eux-mêmes, avec leurs conseils, hein, ils ont fait vraiment une nouvelle forme de gouvernement par en bas, avec des élus révocables, contrôlés par les travailleurs. Ben, nous, on pense que ça résonne énormément aujourd'hui. Puisque nous, on pense que la seule façon de sortir l'humanité de cette société barbare qu'est le capitalisme, bah, c'est que les travailleurs ils fassent plus confiance à des politiciens qui font des belles promesses, mais qui s'organisent eux-mêmes, qui fassent leur propre pouvoir et qui prennent en main, enfin, qui dirigent la société. C'est eux qui produisent toutes les richesses et nous, on pense que c'est à eux de diriger la société.
C'est eux qui produisent les richesses, voilà. Et ceux qui en ont le moins.
D'où l'importance de discuter de cette révolution de 1917 et en quoi... alors donc, il y aura un débat là-dessus, il y aura... un petit film documentaire, une exposition, enfin voilà, autour de la révolution 1917.
Alors, les expositions, là, je veux dire, l'impérialisme au Cameroun, personnellement, je connais pas grand-chose.
Eh bien, c'est l'occasion de venir le découvrir, mais c'est une des déclinaisons des ravages de l'impérialisme français en Afrique. Mmh. Hein, et donc, à travers cet exemple-là, ben, on reviendra sur la mainmise des capitalistes français, sur les ressources et sur le travail des Camerounais et d'ailleurs d'autres pays d'Afrique.
Les principales ressources au Cameroun, c'est quoi? Parce que les Français, l'impérialisme français, il y a encore. S'ils y sont encore, c'est qu'il y a une raison.
Bah, en tout cas, par exemple, un des grands patrons français qui fait beaucoup de fric dans cette région d'Afrique, c'est Bolloré.
Comment?
C'est Bolloré.
Bolloré, oui, oui.
Et oui, Bolloré, c'est vrai qu'en France, on le connaît plus.
Il me semblait, oui, oui.
Et oui, on le connaît plus pour les médias,
les chaînes de télé.
Il a démarré là-bas. Son yacht.
Ou le yacht de Bolloré.
Un certain Nicolas S. lors de son élection.
Tout à fait. Non, mais Bolloré,
il faut savoir que c'est
quelqu'un qui a fait une grosse partie de sa fortune en exploitant les ressources justement des anciennes colonies françaises d'Afrique. Donc notamment, quand il y a eu des vagues de privatisation, il a racheté des ports, il a racheté des compagnies de chemin de fer. Hein. Il y a eu un gros accident de train là il y a un ou deux ans sur la ligne qui relie le Cameroun à je sais plus où. C'est-à-dire qu'il rachète ces chemins de fer, il entretient pas, il tire les prix, il veut que ça soit rentable au maximum et au détriment de la sécurité. Il a aussi des plantations d'huile de palme là-bas.
Hein, au Cameroun.
Et d'ailleurs, il vole les terres de tout un tas de paysans quand même. Hein. Il fait partie de ces grandes fortunes occidentales qui spolient les paysans africains de leurs terres pour faire des grandes plantations de palmiers à huile pour dégager un maximum de profit. Et les gens derrière, ils peuvent plus produire de nourriture. Ils peuvent
Alors, l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qui exploite, qu'est-ce qui est implanté là-bas?
Alors là, donc c'est une autre exposition.
Merieux, il a certainement de.
C'est une autre exposition, hein.
Oui, mais.
Santé et
industrie pharmaceutique, c'est tellement important. Hein.
Voilà, c'est pour revenir aussi sur les scandales qui ont émaillé l'actualité, comme le Mediator.
Oui.
Hein, le rôle de l'industrie pharmaceutique, les profits faits par les industries pharmaceutiques comme Sanofi, Merieux d'un côté, et de l'autre côté.
Tout un tas de laboratoires secondaires, mais enfin.
Voilà, au détriment éventuellement. Ouais. De la santé de la population, parce qu'ils veulent garder leurs médicaments sur le marché, même quand il est avéré qu'il cause des maladies. Et d'autre part, face à ces profits mirobolants, ce qui se passe dans les hôpitaux, avec 3,5 milliards d'économies sous le gouvernement précédent, 7 milliards prévus pour le gouvernement Macron, et donc mettre en regard où va l'argent, qui le produit, où il serait utile. Mais pour revenir au Cameroun et puis à l'autre exposition sur le drame des migrants, hein, qui sera commenté aussi, effectivement, nous, on est convaincus que notre sort de travailleur en France est intimement lié avec celui des travailleurs des autres pays et qu'il est drôlement important, hein, de voir en quoi ce qui se passe ici, les capitalistes qui nous exploitent, qui nous licencient, qui nous précarisent ici, eh bien, ils exploitent là-bas, voire ils causent des guerres pour mettre la main sur des ressources, avec ce qu'on voit aujourd'hui, des milliers de femmes et d'hommes jetés sur les routes, qui risquent leur vie à traverser la Méditerranée, pour ici être rejetés par le gouvernement. Hein. Donc, voilà, je pense que vraiment, la classe ouvrière, elle est mondiale. Et notre sort est lié et on tient vraiment à ce côté internationaliste.
Alors, les animations de la science. Oui.
Alors,
le clitoris, on en a parlé, mais on va en reparler.
Je peux dire encore un tout petit truc sur les migrants. Non, mais juste encore sur les migrants, parce que c'est vraiment quand même. Donc, on a une exposition là-dessus et on tient vraiment à sensibiliser là-dessus parce que on entend beaucoup parler des morts en Méditerranée, mais là encore ce matin, j'ai lu dans la presse, vous savez qu'aujourd'hui, à la frontière entre la France et l'Italie, il y a des morts quand même. Parce que, à force de mettre des barbelés et de pourchasser les gens, les migrants qui essayent de venir en France à travers l'Italie, à force de les contrôler, vous savez, à la gare à Vintimille, enfin, et puis persécuter les gens là qui les aident dans la vallée de la Roya, les migrants qui arrivent quand même, et quand on dit les migrants, faut imaginer que des fois c'est des jeunes de 16 ans, de 17 ans, faut imaginer que c'est des gens qui ont tout quitté, qui ont déjà tout risqué, ils prennent des chemins de plus en plus risqués, et il y a des morts là, dans les Alpes, à côté de chez nous. Et c'est les grandes puissances, là, les pays riches comme la France, comme les puissances européennes, qui sont responsables de ces morts. Et faut savoir que si ces gens ont été obligés de quitter leur pays, hein, que ce soit les Syriens, que ce soit les Africains, là on parlait d'Afrique noire, je veux dire du Cameroun, de Côte d'Ivoire, que ce soit les Érythréens, les Éthiopiens, enfin, tous ces gens-là, c'est des victimes de ce système capitaliste de plus en plus fou, qui pousse de plus en plus de peuples dans la misère, qui pousse de plus en plus de gens à n'avoir vraiment aucun avenir dans leur pays, et puis leur vie détruite. Et nous, ce qu'on a envie de dire aussi par rapport à ça, c'est que ce qui leur arrive à eux aujourd'hui là-bas en Syrie, à eux en Afghanistan, à eux au Cameroun, peut-être que ça peut nous arriver aussi demain. Parce que cette société, elle est tellement folle qu'elle ne fait que générer en permanence des guerres, de plus en plus de guerres, de l'instabilité économique. Aujourd'hui, les milliards de profits qui sont faits par les grandes entreprises, par le système bancaire, ils ne l'utilisent pas pour faire des choses utiles. Ils ne l'utilisent pas pour développer les logements qui manquent, ils ne l'utilisent pas pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de bidonvilles hein, dans un pays comme la France. Il y a quand même des gens qui vivent dans des bidonvilles, dans des conditions ignobles. Ils ne l'utilisent pas pour ça, ils l'utilisent pour se racheter les uns les autres ou pour spéculer et préparer la prochaine bulle spéculative et le prochain krach financier et qui pourra encore avoir des conséquences terribles sur les travailleurs. Nous, on a envie de dire, face à effectivement ce système complètement délirant, ces capitalistes et les gouvernements à leur service qui sont des irresponsables, les travailleurs de tous les pays, comme le disait Muriel tout à l'heure, il faut qu'on s'organise, on a tous les mêmes intérêts. Et tous ceux qui veulent nous montrer du doigt les migrants en disant c'est à cause des migrants que vous, les chômeurs, vous n'avez pas grand-chose, c'est des gens qui veulent faire la guerre, nous monter les uns contre les autres. Les travailleurs d'ici contre les travailleurs d'ailleurs. Les chômeurs d'ici contre les migrants, ça, c'est des ennemis du monde du travail. Tous ceux qui nous montrent du doigt, des plus pauvres que nous, en nous disant c'est leur faute, si vous, vous êtes dans la galère, ces gens-là, et là, vous voyez à qui je fais allusion, que ce soit le Front National, ou que ce soit des politiciens de droite dites classiques comme les Wauquiez et compagnie, que ce soit M. Macron qui dit qu'il veut expulser encore plus de gens, et tous les discours de nous dire on n'a jamais assez de moyens pour les accueillir et compagnie, tous ces gens-là, c'est pour nous mettre dans la tête que on doit faire des sacrifices et qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que on est dans une société où il y a des richesses extraordinaires. Il y a des milliards qui se baladent au-dessus de nos têtes, dans les banques, dans la sphère financière. Ces milliards-là, ils devraient servir à la population. C'est nous qui les produisons. Et ce combat-là, il va falloir le mener avec nos frères migrants qui arrivent ici et qui vont bosser avec nous, avec les travailleurs du public, du privé, les chômeurs, les retraités. On est tous dans la même galère. On vit tous dans le même monde et il va falloir qu'on le change. Voilà.
Alors, oui. Rappelle le nom des invités, Gilles.
Ah oui.
Donc, lutte ouvrière, mais on ne l'a pas rappelé.
Mais vous ne nous avez pas présenté, du coup.
aussi à la durée du fête de lutte ouvrière.
De Adèle Kopf.
Ouais, oui, c'est ça.
Oui. Voilà.
C'est moi.
Dit de Muriel van der Donk.
Voilà, c'est moi.
On est parlé, vous êtes d'origine un peu flamande, non? Non, avec un nom comme ça, non?
Oui, comme de nombreux travailleurs, on bouge pour trouver du boulot. Ouais. Voilà.
Alors, donc, il y aura la partie science.
Voilà, alors la partie science. Alors pourquoi parle-t-on de science à lutte ouvrière? Ben, effectivement, moi je pense que c'est le rôle d'un parti ouvrier de transmettre la culture, et puis il n'y a rien qui n'est pas politique, y compris les sciences. Donc bien sûr, ben, on va parler du clitoris, hein, cet organe de plaisir méconnu et dont la méconnaissance est due d'ailleurs à une volonté politique. Hein, et puis on va parler des mécanismes de l'économie, hein, on va parler des robots. Alors, est-ce que les robots, le progrès, sont l'ennemi de la classe ouvrière? Ben, nous ne le pensons pas. Hein. Pensons au contraire, hein, qu'ils pourraient permettre de se répartir le travail, d'avoir une vie avec plus de temps libre, hein, si seulement au lieu de que ce soit ben, les patrons qui décident de ce qu'on fait des robots et en profitent pour licencier, eh bien que nous on s'en serve pour répartir le travail entre tout le monde et à moins travailler. Hein, et donc un quatrième exposé qui sera sur le cancer et les origines génétiques. Donc effectivement, ben, un parti ouvrier, c'est aussi un endroit où on transmet toute la culture. Alors, la culture scientifique, mais ce qu'on cherche à faire évidemment aussi, hein, c'est la culture politique, l'histoire du mouvement ouvrier. C'est quand même drôlement important que la classe ouvrière puisse avoir à sa disposition, eh bien justement, un outil de transmission de toutes les bagarres qui ont été menées par le passé, des coups bas qui ont été menés par les capitalistes et les gouvernements à leur service, de comment on a pu s'en tirer ou pas, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Les capitalistes aujourd'hui, ils ont leur état-major, ils ont leur domestique, ils ont eu récemment Sarkozy, Hollande, Macron à leur service, hein, qui ont ratissé dans nos poches pour financer les profits des grandes entreprises. Eh bien nous, il nous faut aussi notre état-major, notre parti, de façon à pouvoir mettre en avant nos revendications. Hein, et les défendre collectivement. Hein, et donc, effectivement, ce qui serait intéressant pour
vous. Alors, admettons que je sois vraiment un homme d'opposition à ce que vous dites. Je vais vous dire, mais enfin, ce que vous me dites, madame, depuis 50 ans, l'espérance de vie de 60 ans a passé à plus de 80 ans, 90 ans. Alors, en gros, ça veut dire qu'on vit mieux. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que dans les gens qui meurent, je regarde moi le journal tous les jours, parce que des fois, je connais des gens qui j'ai connus, mais qui partent même avant l'âge. Bon, ça ne doit pas être que des patrons ou des super riches. Hein. Il y a certainement des gens, disons, de la classe ouvrière qui ont dû travailler dur. Enfin, il y en a un qui est mort, il avait travaillé à Giver, là, je ne sais pas dans quelle entreprise, mais il avait plus de 90 ans. Alors les gens vont vous dire, mais on vit de plus en plus mal d'après ce que vous me dites, mais en gros les gens vivent de plus en plus vieux, c'est vrai? Alors vous leur répondez quoi là? C'est une question toute simple, hein? Et qu'est-ce qu'il faut répondre là?
Bah, déjà,
à part les progrès de la médecine, hein?
Bah oui.
Et chez les médecins, il n'y a pas beaucoup de gens de gauche, hein? Il y a quelques hommes, il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a quand même.
Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a qui sont quand même sensibles à la situation de la population.
Mais par exemple, le Debray, qui est un type de droite, moi je l'écoute parce qu'il a une émission le matin là, sur Monte Carlo, mais il tient des fois des bons raisonnements humains, mais c'est un médecin, hein? C'est le fils à l'autre Debray, c'est le frère à l'autre Debray, c'était le fils, donc à, comment, le père Michel?
Michel, oui.
Ouais, Michel Debray. Ouais,
ouais. Et moi, ce que j'ai quand même envie de dire sur l'espérance de vie, c'est que,
c'est une réussite, tant mieux.
Bien sûr, tant mieux que l'espérance de vie progresse, tant mieux qu'il y ait eu des progrès de la médecine, de l'hygiène et des tas de progrès. Maintenant, même ça, c'est à nuancer selon les classes sociales. Parce que là, comme ça, de mémoire, il me semble que l'espérance de vie d'un ouvrier et celle d'un cadre, il y a 7 ans d'écart. Et pourquoi? Ben parce qu'on vit quand même dans une société où les ouvriers, ceux qui font les boulots les plus difficiles, déjà ça les use physiquement. Il y a aussi des tas d'expositions à des produits nocifs au quotidien, encore aujourd'hui dans l'industrie chimique, dans l'industrie du pétrole, dans tout un tas d'industries. On parle encore de l'exposition à l'amiante quand même... on savait, c'était, alors maintenant c'est interdit en France donc, mais quand même pendant des décennies, tout le monde savait que l'amiante c'était un poison, que c'était mortel, que tous les travailleurs qui manipulaient l'amiante, ils allaient être empoisonnés et en mourir. Et encore aujourd'hui, il y a des travailleurs qui doivent se battre, ils ont été exposés à l'amiante pendant des décennies et ils doivent se battre pour avoir la reconnaissance, et c'est pas si simple que ça. Et donc il y a tout un tas en permanence de procès parce que les patrons et l'État ne veulent pas reconnaître leur tort. Et on vit quand même dans une société où il y a des tas de maladies comme ça professionnelles contre lesquelles il faudrait lutter, et on ne le fait pas parce que même, vous savez, souvent les travailleurs, ils peuvent même pas savoir à quels produits ils sont exposés.
Oui.
Parce que c'est secret, c'est le secret industriel, c'est nous on est pour la transparence et pour que une vraie on devrait pas ruiner sa santé au travail. Et l'air de rien, voilà. Et même sur l'espérance de vie et sur les progrès du système de santé, moi, je ne sais pas comment ça sera dans 10 ans. Parce qu'on voit quand même, depuis les dernières années, une offensive contre la sécurité sociale, hein, des déremboursements de médicaments, des baisses de remboursement de choses de base, hein, comme les transports médicaux. Hein, quelqu'un qui a du mal à se déplacer pour aller à l'hôpital, c'est moins bien.
Oui, maintenant, il réduit.
Et oui, il y a quand même une offensive contre la santé, en prenant dans les poches des catégories populaires. Qu'est-ce que ça va donner à terme? Et c'est là où on voit que c'est vraiment dégueulasse, cette société. Parce qu'on a des moyens médicaux de plus en plus extraordinaires, on a des techniques médicales, on a des choses formidables pour soigner de mieux en mieux la population, mais il y a une fraction croissante de la population qui en est exclue parce que ça coûte cher, et des soins de base. Donc,
alors aujourd'hui,
oui, c'est bien les progrès, mais il faudrait que ça profite à tout le monde.
Aujourd'hui,
et ça va être un combat.
Aujourd'hui, il y a une journée nationale, je crois que c'est une journée nationale, c'est pas officielle, des EHPAD. Vous savez ce que c'est que les EHPAD?
Ouais,
ce sont des gens qui deviennent dépendants. Alors, le gros problème, les EHPAD, c'est le personnel. Tous.
Exactement.
Et moi, j'avais déjà dénoncé ça, puisque...
Le manque de personnel.
Par des membres de ma famille qui ont été... Voilà, un membre de personnel. Alors, par exemple, c'est obligatoire, il doit y avoir au moins une infirmière la nuit. Alors, il y en a, c'est pas une infirmière, c'est des aides-soignantes. Bon, on peut pas être contre les aides-soignantes, elles sont là. Mais je veux dire, elles ont pas la qualification d'une infirmière. Puis il y a des maisons, il y a carrément pas de personnel. Voilà.
Alors,
faut téléphoner à l'hôpital le plus près.
Pourquoi c'est lamentable. Comme ça? Pourquoi
c'est
comme ça?
Eh ben oui, parce que...
Parce que
alors,
c'est
faut
des groupes
dire,
privés
alors,
aussi.
Alors, il y a les EHPAD municipales, comme il y en a à Lyon, mais les trois quarts sont privés, quoi.
Et oui.
Et là, ils font du fric.
Et derrière, c'est rentabilité.
Ah oui, oui.
Et ils économisent sur le personnel.
Oui, oui.
Et ça aussi, c'est vraiment... On voit l'inhumanité de notre société quand même, parce que quand on est une personne âgée dépendante et que on est dans une société qui est riche, mais qui n'est pas capable de mettre des moyens humains pour qu'on vieillisse quand même de façon digne et avec des personnels compétents et formés et suffisants pour que, je sais pas, on n'est pas des...
On va continuer, donc présentation de romans, l'Italie et la Grèce... Vous avez sous-titré esclavage et capitalisme.
Alors c'est deux choses différentes, hein. C'est deux thèmes.
Ah oui, mais c'est deux thèmes différents,
oui,
parce que ça pourrait être en même temps, surtout en Grèce, hein, je pense que ils doivent travailler, ils ont drôlement réduit leur salaire là-bas, hein.
Hein, ça c'est sûr.
C'est bien les esclaves, quoi. Hein,
c'est vrai qu'on pourrait peut-être tout mettre ensemble, mais
ouais,
bon voilà, moi je pense que l'exemple de la Grèce, effectivement, il va y avoir des romans sur le thème de la Grèce, mais quand on voit justement ce que les attaques qui ont eu lieu contre les travailleurs grecs sous Tsipras après que les banques ont commencé à spéculer sur la dette grecque, on voit ce qui nous attend si on réagit pas. Hein, on voit là dans la ligne de mire là quand même, je pense que c'est peut-être l'occasion de parler aussi de la journée de mobilisation qui est prévue demain, hein, contre les attaques du gouvernement. Alors bien sûr, il y a la destruction du CDI, c'est-à-dire une précarisation encore plus grande, mais dans la ligne de mire derrière, il y a aussi les services publics, hein, avec les 120 000 postes en moins, les indices différenciés suivant les fonctions publiques, les économies en plus, les retraites, hein, où on voit qu'ils vont prendre avec l'augmentation de la CSG encore plusieurs dizaines d'euros sur des petites retraites. Bon, tout ça, on voit que ça va pas dépendre du gouvernement qu'on a en face de nous. Les Grecs, ils ont subi des attaques encore pires avec un gouvernement qui ressemble un petit peu à un gouvernement Mélenchon grec. Hein, donc, il faut absolument qu'on se donne les moyens de réagir contre ceux qui sont derrière les gouvernements, hein, contre les capitalistes qui sont les donneurs d'ordre du gouvernement, afin de ne pas subir le même sort, hein, et de se défendre collectivement. Alors effectivement, à travers ces exemples, les romans, ça permet de vivre la vie des gens à d'autres époques, dans d'autres pays, et de voir notamment ce qu'ont subi les travailleurs en Grèce récemment.
Vous savez, en Grèce, on ne sait pas tellement ce qui se passe. De temps en temps, il y en a un qui pousse une gueulante, qui en parle, mais au début, ils ont dégusté. Hein.
Mais ça continue.
Et là, ça doit être dur. Hein. Ça doit être. Heureusement, c'est malheureux. Enfin, malheureux, non, oui et non. Qu'il y a le tourisme qui permet un peu de relever la. Eh oui, non, mais les gens vont en Grèce. Hein,
ouais, mais enfin.
Bah oui, mais ça relève un peu. Ça fait, comme on dit, des royalties qui rentrent.
Oui, mais enfin, ça n'empêche que là-bas, les retraites ont été baissées. Les revenus, tous les travailleurs, hein, que ce soit en activité ou alors, ont été baissés. Mmh. Et ça a été vraiment d'une violence inouïe. Hein, ça, c'est tout ça pourquoi, entre parenthèses, pour rembourser les dettes aux banques. Parce que la population grecque. Je veux dire, les ouvriers, tous les travailleurs, les retraités, les chômeurs, ils n'en ont jamais vu la couleur, hein, de tous ces milliards qui ont été prêtés à l'État grec. Et par contre, quand il s'agit, parce que c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est pas de l'argent qui a servi à développer les services publics, qui a servi à augmenter les salaires, etc. C'est de l'argent que l'État utilise pour sauver les banques et compagnie. Et par contre, quand il s'agit de payer la facture, là, on présente la facture à la population. Mais là, on reconnaît ce qui se passe dans tous les pays d'Europe, sauf que là-bas, ça a été fait avec une violence énorme. Quoi.
Alors, on va bien parler, puisque ça concerne les canuts.
Eh bien oui, les canuts.
Une rencontre avec Raphaël, donc c'est une femme Perret, auteur d'un livre sur la presse ouvrière des canuts. Alors, allez-y, que nous sommes sur Radio Canut.
Alors, le titre du livre, c'est « Et les ouvriers ne seront plus des orang-outans ».
Oui.
Et elle parle de l'époque donc des canuts, hein, donc des années 1830, à l'époque où c'était ces ouvriers de la soie qui étaient sur toute la colline de la Croix-Rousse et qui travaillaient dans des conditions terribles pour enrichir, hein, les bourgeois lyonnais, hein, les soyeux, hein, c'est quand même les fortunes des bourgeois lyonnais à la base viennent quand même de l'exploitation des canuts. Et ben ces canuts, ils se sont révoltés à différentes reprises, hein, dans les années 1830. Et dans cette période où ils se sont révoltés pour des meilleurs salaires, en fait, on dirait aujourd'hui, et pour leurs droits, ils se sont aussi battus pour des droits.
Des conditions de travail, parce qu'ils faisaient 12-15 heures.
Bien sûr, exactement.
Les enfants bossaient des 6 ans, quoi. Hein.
Et ils ont fait, je crois, les premiers journaux ouvriers, hein, donc, c'est-à-dire une presse écrite par les travailleurs, qui parle des conditions des travailleurs, et aussi de problèmes politiques, c'est-à-dire que ils se sont aussi rendus compte que quand ils se battaient contre les patrons, contre les bourgeois, ben ils se retrouvaient avec l'armée en face, ils se retrouvaient avec l'État en face. Donc ils ont compris aussi qu'il fallait pas seulement se battre contre les patrons pour des meilleurs salaires, mais aussi contester le pouvoir politique et s'intéresser aux problèmes politiques. Ben tout ça, c'est pareil, c'est d'actualité. Donc Raphaël Perret a écrit un bouquin qui raconte tout ça, et donc elle vient effectivement pour présenter son livre dimanche après-midi.
C'est une lyonnaise ou...
Oui, je pense que c'est une lyonnaise.
Oui,
c'est une lyonnaise, Raphaël Perret.
Voilà, il vaut combien ce livre? Non, ça ne faisait pas une
idée. Alors, bonne question. Je ne sais pas.
Bon, alors, de toute façon, on va reparler de Nathalie Arthaud. Mais alors, donc, il y aura des jeux. Qu'est-ce qu'il y aura comme jeu pour les enfants, pour les...
Il y aura une variété de jeux en bois, de...
Pêche à la ligne.
Parce que j'ai vu dans une résidence de personnes âgées samedi, il y avait des jeux. J'en connaissais aucun. Aucun. Donc c'est tous des jeux nouveaux. Mais ça va à une vitesse, alors on pousse des trucs, tout ça. Alors ils essayaient, c'est tous des gens qui ont au minimum peut-être 70 ans, de les intéresser, ils ne s'accrochaient pas tellement. Alors c'est drôle parce que leurs enfants, qui avaient peut-être 40, 50 ans, c'est eux qui jouaient à leur place, quoi. Ils leur montraient, mais ils jouaient en même temps, c'est les enfants qui jouent. C'est tous des jeux nouveaux, hein. Adieu le jaquel, jeu de dames, enfin d'autres jeux. Ah, ça m'a. Et il y avait des petits-enfants qui s'y intéressaient. Donc, je suis pas contre ces jeux. Ça doit certainement être peut-être plus intéressant que nos jeux d'antan, quoi. Mais on nous parle toujours du championnat du monde des échecs. Hein.
En tout cas, notre fête, elle est, elle est faite pour les adultes, mais aussi pour les enfants.
Il faut les amener, les jeux. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez... pour les jeux, il faut les amener. Hein. Comment vous vous organisez là.
Ah bah, tout ça, c'est organisé à la fête.
Oui,
hein. Vous avez...
Alors,
les ouvrières, on a un certain nombre de camarades.
Donc, il y aura un buffet varié.
On se répartit les choses à préparer.
Le buffet varié, c'est pour le soir, ça.
Oui, pour le samedi soir. Donc
oui, et vous avez un banquet à dimanche.
Et le dimanche midi, un banquet. Mais là, c'est sur réservation. Il faut prévoir à l'avance, parce que là, c'est un repas.
Et donc, il y a un numéro de téléphone à appeler pour
faire
le buffet à midi.
Alors, si les gens veulent réserver.
Donc, il y a notre site, il y a notre adresse mail. C'est lo-lyon@orange.fr. Ou sinon, on a une page Facebook, Lutte Ouvrière Lyon-Rhône. Voilà, vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Internet, par mail.
Et pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas d'ordinateur.
Et oui, il faut y penser à ça.
Et c'est pour ça qu'on a mis aussi une boîte
postale.
Une boîte postale pour nous contacter.
Qui est dirigée par, dans une commune. C'est... dirigée par les communistes à Vénissieux. Ah, c'est ça, hein.
Boîte postale 238 69634 Vénissieux-Sédex.
Non, là, c'est pour aller ensemble. C'est peut-être un peu juste si on est déjà.
C'est pour réserver pour le banquet.
Oui.
Oui, alors là, on est déjà mercredi. Ça commence à être bien complet quand même pour le banquet. Voilà. Par contre, l'entrée, sinon de la fête.
Une carte d'entrée hein, pour deux.
C'est pareil. À l'avance, elle est vendue 7 euros.
Oui.
Mais on peut l'acheter aussi sur place directement. Mais c'est un tout petit peu plus cher. C'est 10 euros.
10 euros.
Par contre, c'est valable pour les deux jours. Donc, la fête, elle se déroule le samedi soir à partir de 17 heures. Voilà. Et puis, le dimanche, donc à partir de 11h30, en gros, de 11h30 à 13h14h. C'est vraiment le repas. Et puis à partir de 13-14 heures, il y a de nouveau tout un tas d'animations et toute l'après-midi jusqu'à 19 heures. Et puis gros temps fort quand même du dimanche après-midi à 16 heures. Donc il y a l'allocution de Nathalie Arthaud. Voilà, donc qui sera présente à la fête, qui était notre candidate à l'élection présidentielle, passée, et qui est notre porte-parole. Donc, qui va venir intervenir sur l'actualité pour dénoncer justement cette véritable guerre que nous mène aujourd'hui le gouvernement Macron, et surtout derrière les marionnettes qui sont au gouvernement, le grand patronat, hein, parce que derrière cette offensive contre le code du travail, contre les services publics, contre les chômeurs, contre les retraités, contre tout le monde du travail, derrière c'est le MEDEF, c'est les grands patrons. On a tous vu sur les plateaux télé comme les représentants du MEDEF étaient tout sourire suite aux annonces des ordonnances de Macron. Hein, ils sont tout contents, ils se félicitent, ils se frottent les mains. Nous, on a envie de dénoncer que tout ça, c'est une politique, alors qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein, Muriel en parlait tout à l'heure. Déjà, sous Hollande, on avait eu déjà la loi Rebsamen, la loi El Khomri, sous Sarkozy. Et puis si on remonte, les attaques contre le code du travail, contre les conditions de travail et les droits des travailleurs ne datent pas d'aujourd'hui. Mais ça continue avec Macron, il est dans la lignée des précédents. Et ça va continuer ensuite si le monde du travail n'y met pas un coup d'arrêt. Et nous, on pense qu'il faut se préparer à ça, se préparer à cette idée qu'il va falloir une contre-offensive générale du monde du travail, que reprendre confiance dans nos forces. Voilà. Nous tous, le monde du travail, on est une force. C'est nous qui faisons tout tourner dans la société. Hein. S'il y a des trains qui roulent, s'il y a des hôpitaux qui fonctionnent, des écoles qui fonctionnent, s'il y a des voitures qui sont fabriquées, s'il y a des bâtiments qui sont construits, c'est les travailleurs qui font tout. Hein. Contrairement à ce que certains du monde des privilégiés voudraient dire, hein, en traitant les gens de fainéants, ou en disant, comme Monsieur Macron avait dit, il y a des gens qui réussissent. Dans une gare, il y a des gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous voyez le mépris de ces gens-là. Nous, on pense que c'est les fameux gens qui ne sont rien. En fait, c'est eux qui sont à la base de toute la société, qui font tout ce qui est utile dans cette société. Et les gens du monde de M. Macron, les banquiers, les capitalistes, les financiers, qu'est-ce qu'ils font d'utile finalement? Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Rien. Ils sont même nuisibles parce que avec leur politique, avec leurs attaques, ils sont en train de pousser le monde du travail de plus en plus dans la pauvreté. De plus en plus, l'exploitation s'intensifie. Comment ça se fait que les entreprises là, du CAC 40, elles peuvent annoncer des records de profits? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en 2016, le CAC 40, ils ont fait 75 milliards d'euros de profits. c'est-à-dire plus 32% par rapport à l'année d'avant. Mais quel travailleur a eu une augmentation de 32% de son salaire, de son allocation, de sa pension ? Personne, plus 32%. Rien qu'au premier semestre de 2017, ils ont fait encore 52 milliards de profits. Donc, ça augmente. Comment ça se fait que ça augmente ? Ça vient d'où cette augmentation ? Ça vient d'où cette richesse ? Eh ben, ça vient de l'exploitation qui s'intensifie.
Alors, il faut dire, l'exploitation, ça vient de plus en plus, elle se fait hors de France. C'est-à-dire, quelle boîte ? C'est Renault qui va construire, ils vont produire des voitures au Maroc, par exemple. Bon, Renault, c'est encore, ça tient un peu la route. Mais il y a d'autres petites boîtes, des boîtes qu'on ne connaît pas, qui fabriquent des éponges, n'importe quoi. Alors, c'est soit au Pakistan, peut-être en Chine, même, mais dans des pays africains, là où c'est vraiment l'exploitation, là.
Bien sûr,
là,
ils font du fric en exploitant.
Et le siège social arrive quand même à rester encore en France.
Et le fric et les bénéfices, ils sont ici. Et c'est
oui.
Ça.
Ah, mais ils en mettent au Luxembourg, hein.
Vous savez, faut pas croire non plus.
Oui, les bénéfices, ils doivent quand même circuler.
Faut pas croire non plus qu'il y a que en Chine ou que au Bangladesh que les ouvriers sont exploités, hein. Parce que je vais vous dire que ici,
ah,
aujourd'hui.
Non, mais il y a qu'à aller en Roumanie, en Bulgarie, ou
ici,
en Pologne.
À Vénissieux. À Nonay, sur les chaînes de montage de l'industrie automobile, vous savez.
Oui, à Nonay, ils y sont encore, Renault.
Oui, bien sûr.
C'est le cuir qui a disparu là, complètement. La tannerie.
Dans les usines chimiques, dans la vallée de la chimie à Lyon, l'exploitation, elle est là. Et les patrons qui suppriment des pauses, qui augmentent les cadences, qui licencient du monde et qui font faire le même travail à ceux qui restent, à moins nombreux, qui rognent sur tout, qui rognent sur le matériel de sécurité, qui rognent sur l'entretien des installations. C'est au quotidien et ça, c'est juste à côté. Et ça, c'est les travailleurs qui le subissent tous les jours. Et les.
Oui, mais est-ce qu'ils en ont conscience ? Est-ce qu'ils en ont conscience, les travailleurs ? Ce qu'ils pensent, les travailleurs, c'est payer leur crédit. Moi, j'en connais, hein, 40 ans, 30 ans, c'est payer leur crédit. Ils triment pour payer leur crédit. Sinon, ils sont pendus, ils ne peuvent pas s'acheter la nouvelle télé, ou je ne sais pas, ou changer de voiture, ou d'autres trucs. Même les achats scolaires. On pourra en parler, hein, c'est récent, la rentrée scolaire. C'est drôlement augmenté. Hein,
vrai que la conscience de classe des travailleurs.
Voilà, la conscience de classe.
A reculé ces dernières années. Mais on est en train de payer les trahisons du Parti Socialiste, du Parti Communiste qui s'est mis à la remorque du Parti Socialiste en berçant d'illusions les travailleurs en leur disant votez pour cette gauche et ce sera moins pire. Au départ, on leur disait même ce serait mieux. Mitterrand parlait même de révolution. Hein, bon, qu'est-ce que ça a donné pour les travailleurs ? Ben, ça a donné des licenciements en masse, de l'argent public qui ont permis aux capitalistes de récupérer de quoi financer leurs spéculations, la privatisation des services publics. Bon, eh bien, effectivement, les militants qui, à la base, dans les entreprises, ont fait suivre cette politique du PC. La CGT aussi qui a appelé à voter pour la gauche, eh bien, ça les a démoralisés de voir ce que leur direction a fait. Ça a éloigné les jeunes. Comment est-ce qu'on peut transmettre cette conscience de classe, cette idée qu'il faut se battre collectivement, quand notre propre direction nous dit il faut attendre, voir ce qu'ils vont faire ? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, on paye par ce recul de la conscience de classe les trahisons des partis de gauche. Alors c'est vrai, nous on tient d'ailleurs à se dire communistes révolutionnaires, parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement trahi que ce mot gauche ne veut plus rien dire. Eh bien, oui, il faut la reconstruire. On part de loin, mais après tout, les canuts, cette conscience de classe, ils se les sont forgés à partir de rien, eh bien, il faut recommencer. Il faut recommencer. Et quand on voit effectivement l'arrogance du gouvernement qui va traiter des ouvrières d'illettrés, eh bien qu'ils fassent attention. Parce qu'en Russie, justement, en 1917, c'est un pays avec plein de travailleurs illettrés qui a renversé non seulement le tsar, mais la bourgeoisie à sa suite. Eh bien effectivement, il faut qu'on la récupère. Il faut qu'on soit plus nombreux à défendre cette idée que quand on attaque un travailleur, eh bien nous sommes tous attaqués. Que ce travailleur soit du public, du privé, qu'il soit précaire, qu'il soit en CDI, qu'il soit français, qu'il soit étranger, qu'il soit un homme ou une femme, on est tous attaqués. Effectivement, cette conscience de classe, eh bien, c'est de bonne guerre que les capitalistes
je vous demander,
la combattent.
Les scores que vous faites depuis des années, hein, aux élections, ça vous décourage pas
Bien sûr que non. Nous, on est révoltés.
Ce sont les scores,
nous, on a la rage. Oui. Nous, on veut pas arrêter le combat. Et même si on est, on sait que nos idées sont minoritaires aujourd'hui. Mmh. On sait que.
Oui, mais les gens sont impatients aussi. Ils disent.
Bien sûr. Mais tous ceux qui proposent d'autres solutions, finalement, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur bilan? Justement, c'est quoi le bilan de cette gauche qui, à chaque fois, dit qu'elle va améliorer le sort des travailleurs?
Déjà, le bilan, il n'y a plus qu'un Français sur deux qui va voter.
Exactement.
Ça, c'est quand même
le
triste.
Dégoût de la politique, bien sûr. Oui. L'abstention, et en particulier dans les catégories les plus populaires, dans les milieux ouvriers, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter du tout. Oui, Vaux-en-Velin, c'était un record d'abstention.
Ah oui, chaque année.
Voilà leur résultat, c'est le dégoût de la politique. Et puis, un autre résultat, et qui nous préoccupe énormément, c'est la montée du Front National. C'est aussi ça le résultat des trahisons de la gauche et des illusions et des faux espoirs et des espoirs déçus. C'est aussi que le Front National, il peut réaliser des scores parmi les plus importants dans des coins comme le Nord, le Pas-de-Calais, où c'était des fiefs du mouvement ouvrier. C'était des fiefs du Parti Socialiste à l'époque où il était ouvrier du Parti Communiste. Le résultat, ces partis-là, ils ont emmené les travailleurs dans des voies de garage, ils les ont trahis, ils les ont trompés. Et aujourd'hui, les travailleurs qui votent Front National, nous, on pense qu'il faut qu'on combatte ces idées dans le monde du travail parce que c'est un poison, parce que le Front National, c'est un parti bourgeois, c'est un parti comme les autres de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui veut diviser le monde du travail entre ceux qui ont des papiers, ceux qui n'en ont pas et compagnie. C'est un parti qui critique jamais le capitalisme, qui s'attaque jamais à la bourgeoisie, au grand patronat. D'ailleurs, quand il y a des travailleurs qui sont en grève, qui sont dans la rue, qui se laissent pas faire, le Front National, il les soutient jamais. Même au moment de la loi El Khomri, il y avait une des dirigeantes du Front National qui avait demandé qu'on envoie les CRS pour débloquer les raffineries. Ils sont viscéralement hostiles aux travailleurs qui se laissent pas faire. Alors ils veulent bien les voix des travailleurs, faire de la démagogie pour récupérer les voix, il y a pas de problème. Par contre, c'est des ennemis mortels des travailleurs qui se laissent pas faire. Et nous, on veut convaincre les travailleurs qu'il y aura pas de sauveur. Voilà. C'est-à-dire que des gens, ils avaient vu Hollande comme un sauveur à une époque. À une époque, si on remonte, les plus anciens, Mitterrand, et aujourd'hui, ils voient Marine Le Pen. Mais non, personne va nous sauver. Soit on se sauve nous-mêmes, c'est-à-dire on s'organise par notre conscience de classe, en retissant des liens entre nous. Alors, ça peut commencer de façon très simple, discuter avec ses collègues de boulot, discuter avec ses voisins de palier, dans sa famille. Plus il y aura de travailleurs qui défendront cette idée que le monde du travail doit faire de la politique, doit mettre en avant ses intérêts, doit relever la tête, qu'on ait une force, c'est comme ça qu'on avancera.
Alors, une question délicate qu'on a dû vous poser. Vous avez un siège, c'est un château? Qu'est-ce que vous répondez là? Gilles, il y a un château du tout.
Écoutez, ça veut dire quand même qu'on n'est pas si peu nombreux que ça, que quand on doit se réunir, on a besoin d'un
château,
grand local.
Il est où déjà ce château dans la rue?
Oui, alors vous parlez du.
À la télévision, on en parle.
Oui, du lieu, c'est en région parisienne, à Presles, dans le Val d'Oise. C'est là où on fait notre fête. Alors là, on parle de la fête de lutte ouvrière lyonnaise qui a lieu.
Mais le château, il appartient à lutte ouvrière.
On a une fête chaque année à la Pentecôte, une fête donc à l'échelle nationale, internationale, puisqu'on a des camarades qui viennent des militants de différents pays. Et cette fête a lieu donc dans une. Alors, un château, c'est une grosse maison bourgeoise, donc après.
Qui appartient
à lutte ouvrière, qui fait partie de céder dans nos comptes, etc. Et qui demande beaucoup de travail bénévole, d'entretien de nos camarades, parce que voilà, mais vous savez.
Les gens disent l'achat, ils l'ont acheté comment? Avec quel argent? C'est ça la...
Vous savez, lutte ouvrière.
Puisque lutte ouvrière, il parle que des travailleurs pauvres, surtout, etc.
Mais les militants de lutte ouvrière et les sympathisants de lutte ouvrière versent des cotisations.
Parce que je vous signale, c'est annoncé hier ou aujourd'hui, le Parti Socialiste vend son siège national à Paris.
Alors vous savez que.
Ils l'ont annoncé,
Oui, bien sûr, mais vous savez que. Nous, on ne possède pas un hôtel de.
Oui, c'était certainement un beau.
En plein centre d'un quartier chic parisien, vous voyez.
Oui, certainement.
Nous, c'est bien loin de Paris. C'est, une grande maison avec un grand parc qui nous sert éventuellement pour des réunions, qui sert. Tout le monde peut venir la visiter, donc, au moment de notre fête, puisque c'est cette maison.
C'est une maison, alors c'est pas vraiment.
Non, mais c'est vrai que pour nous, si, c'est un petit château, si vous voulez, parce que par rapport à. nous, dans quoi on habite, bien sûr. Mais c'est tout le monde peut y aller puisque c'est ce château qui sert de librairie pendant notre fête de lutte ouvrière. Donc,
et qui a lieu quand?
À la Pentecôte, toujours le week-end de la Pentecôte.
En mai prochain, alors faut attendre.
Oui, mai, juin, ça dépend des années.
Et puis, donc, si vous êtes absolument impatient, il y a une association qui s'appelle le Fil de l'Arbre qui fait fonctionner un acrobranche toute l'année. Oui, donc, vous pouvez venir visiter et pique-niquer dans le parc.
Hein, donc, finalement, les fêtes religieuses, ça sert, puisque en deux fois, on a trois jours de suite, quoi.
Bah, les jours fériés, en tout cas, c'est bien. Ça, c'est
trois jours de suite. Hein.
Ça, c'est sûr. Oui, on en voudrait plus.
Il faut quand même, c'est quand même terrible qu'il y ait faire deux guerres mondiales pour faire deux jours de congé.
Bah oui, on pourrait quand même prendre d'autres dates. Ah bah
moi, je suis pour revenir même à la Saint-Lundi, hein, où on ne revenait pas toujours au travail le lundi. Mais bon, de toute façon...
Je vais quand même rappeler le nom, parce que j'ai quand même donc Adèle Kopf et donc Muriel van der Donk de Lutte Ouvrière. On continue. La lutte.
Donc, on continue la lutte, oui.
Et puis, bien sûr, un parti ouvrier, ben, ça se finance par des cotisations des sympathisants, des militants. On fait régulièrement des souscriptions. Vous trouvez la souscription dans notre presse hebdomadaire, hein, le journal Lutte Ouvrière. Et par conséquent, effectivement, on ne peut, un parti ouvrier ne peut faire vivre sa propre presse, ne peut défendre ses idées que s'il est financé par sa classe. Hein, son camp, c'est-à-dire des travailleurs, des chômeurs, des retraités qui cotisent en fonction de leurs possibilités, de façon à ce que ces idées, elles vivent. Hein, et effectivement... Ben...
Oui, parce qu'il y a un article donc sur l'Auvergne, alors en rappelant que le président de la région...
Donc un article dans notre hebdomadaire,
oui,
Lutte Ouvrière.
Oui, issu de la région de l'Auvergne. Et... Alors là, je ne l'ai pas lu.
C'est un article qui dénonce la baisse des APL.
Oui,
dans la
parce
région.
Que lui, en Auvergne, enfin dans les lycées de la région, il fait mettre des... Pour les entrées,
des portiques. Il y a toujours, parce qu'apparemment, les proviseurs lui ont dit que c'était pas possible.
Oui, c'est compliqué.
De toute façon, mettez un portique, passez une personne par une, oui. Bah, dans ce cas-là, à quelle heure commencent les cours?
Ça fait le mieux. Voilà, eh bien, on vous remercie d'être venu. Alors, nous rappelez-nous rapidement votre fête, les jours, et quand c'est que ça a lieu, tout ça.
Donc, la fête de lutte ouvrière, c'est ce week-end. Donc, samedi 23 à partir de 17h, dimanche 24 de 11h30 à 19h. Donc, à l'espace Mosaïque à Saint-Priest, avec donc des spectacles, des débats sur l'actualité, des expositions, des livres, de la science, des animations et... une allocution de Nathalie Arthaud le dimanche à 16h.
Alors, c'est au 47 rue Aristide Briand. On y va avec le tram T2, oui, à proximité de la mairie, mairie de Saint-Priest, dont le maire, je ne partage que le prénom en commun, Gilles.
Et le bus, C25.
Oui, le C25.
Et il y a un parking gratuit sur place. Hein, pour
et le C25 peut être pris à partir du métro ligne D, arrêt Paris.
Ouais.
Voilà, et c'est la région Bouin.
Et donc
voilà.
La salle...
Vous pouvez même y aller à partir de la Part-Dieu.
Tout à fait.
Le C25 part de la Part-Dieu.
D'accord. Oui. Et juste la route où est la salle est aussi connue sous le nom de route d'Erieux quand même.
C'est l'ancienne route d'Erieux.
Voilà, c'est ça, c'est plus connu.
Elle s'appelle comment maintenant?
Eh bien, vous voyez, Aristide Briand.
Aristide Briand, donc ancien ministre.
Ah oui, parce que la rue Professeur Santi faisait partie de la route d'Erieux dans le temps, hein, au départ.
Et est-ce qu'on peut encore dire deux mots sur le fait qu'il y a une manifestation demain?
Ah oui, il faut en parler.
À 11h30, à la manufacture des tabacs, quand même, contre toute la politique de Macron. Donc il y a quand même un certain nombre de travailleurs qui vont être en grève demain, que ce soit dans le public. Il y a des retraités, il faut qu'il y ait des chômeurs, il faut qu'il y ait le maximum de monde dans la rue demain pour dire non à cette guerre sociale que nous mène ce gouvernement et le MEDEF derrière. Et plus il y aura de travailleurs demain dans la rue et en grève pour dire ce qu'ils en pensent, plus ça sera de bon augure pour la suite.
Donc c'est la mobilisation encore plus forte. La suite de celle qui a eu le 12. Là.
Voilà, la suite du 12.
Et celle du 23, vous participez anonymement, vous participez... il va y avoir du monde aussi, hein. Mais elle a lieu qu'à Paris le 23, comme j'ai cru comprendre.
Je pense aussi, il s'agit effectivement de Mélenchon qui mène sa politique, qui se propose comme sauveur. Bon, je pense que tout
sauveur suprême.
Voilà, hein, à la place des Macron, etc. Moi, je enfin voilà, on vient de discuter effectivement du fait que c'est pas en remplaçant une marionnette par une autre qu'on va sauver notre peau. Donc, effectivement, c'est pas notre politique. Hein, c'est pas notre politique. Donc, effectivement, nous répondrons présent à tous les appels à la grève, aux manifestations.
Donc vous y serez quand même dit le dimanche. C'est le dimanche, non, samedi.
Bah, écoutez, là, il y a déjà la manifestation de demain. Voilà.
Oui.
On verra demain le monde qu'il y a. Et c'est déjà important aujourd'hui de convaincre autour de nous. Il nous reste la soirée pour appeler nos amis, pour appeler nos collègues, pour que montrer que dans le monde du travail, il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus qu'il faut que la seule perspective pour le monde du travail, c'est pas les blablas à l'Assemblée, c'est pas les élections, c'est construire un rapport de force, c'est dans les grèves, c'est dans la rue, et c'est là que ça se passe.